Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Que comprendre de la vague de froid au Mali? C'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. Depuis quelques jours, le thermomètre affiche des températures en deçà de 20 degrés. Et selon la météo, cette situation peut perdurer encore deux jours. Quelle explication à ce froid qui s'abat sur le pays? A-t-il un lien avec le changement climatique? Comment se protéger? Studio Tamani pose donc le débat avec nos invités. Ismaël Koumaré de Mali Météo, Dr Ibrahim Togola, président du conseil d'administration de Mali Folk Center. Et Adama Sambou Sissoko, président de l'association des apprenants et diplômés en environnement au Mali. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Ismaël Koumaré, quelle explication pouvez-vous donner à cette vague de froid qui s'abat actuellement sur le pays?
Ok, bonsoir. En fait, depuis un certain temps, comme depuis le lundi, on est en train d'observer une baisse progressive des températures, pas seulement à Bamako, mais sur l'ensemble du pays. Donc déjà, on a fait une alerte par rapport à cette vague de froid et qui va continuer jusqu'au 24 décembre. Et c'est à partir du 25 décembre que la situation va revenir à la normale. Et cette vague de froid est due, vous savez, au niveau de l'océan Atlantique Nord, on a un champ d'action qui est appelé l'anticyclone des Açores. Donc, à chaque fois que l'anticyclone des Açores se renforce davantage, donc ça pousse le vent d'Harmattan vers chez nous. Donc, c'est ce qui fait que ça quitte les zones en Europe, aux pays maghrébins, où actuellement il fait très froid là-bas, il neige. Donc, on va sentir la fraîcheur qui est présentement, qu'on est en train d'observer actuellement.
Ces explications sont-elles convaincantes selon vous, qui peuvent expliquer cette vague de froid que nous constatons sur l'ensemble du territoire national?
Oui, je pense que c'est les spécialistes de la météo qui les disent. Hein, donc, je pense que c'est des explications convaincantes. Et donc, en disant que vous savez, notre planète est une grande maison et tout est interconnecté. Et donc le mouvement des océans, c'est avant tout ce qui régule la température sur notre planète. Et donc et c'est le mouvement de ces océans aussi qui fait la différence entre les saisons. Hein, donc avec ces mouvements, les pressions, les dépressions, donc comme il l'a dit, les cyclones, les anticyclones. Donc, et bien sûr, on peut dire aujourd'hui, bien sûr, avec les activités humaines, il y a certaines perturbations. Hein. Bon, il y a des choses qui se faisaient, qui étaient prévisibles peut-être pour nos spécialistes de la météo. Mais aujourd'hui, les effets des changements climatiques font que les aspects des prévisions deviennent assez dérisoires et on assiste à des perturbations de plus en plus assez élevées et donc avec des durées souvent qui peuvent être de longue durée. Donc je pense que ces phénomènes climatiques, ça montre aussi à nous les humains nous sommes partie intégrante de la nature. Voilà, donc nous sommes partie intégrante de la nature. Ce qui touche la nature touche l'homme et parce que c'est notre écosystème.
Adama Sambou Sissoko, vous êtes un environnementaliste. Quelles sont selon vous les causes profondes de ce changement de température?
Oh, je remercie mes co-débatteurs. Comme ils l'ont dit, tout d'abord, quand on essaie de voir, nous sommes dans la zone qu'on appelle la zone intertropicale et il a parlé des anticyclones. Et également, quand nous essayons d'aller dans le contexte de changement climatique, il faut qu'on essaye de voir les activités que nous menons qui peuvent peut-être être la source de tels changements, à savoir la consommation des hydrocarbures pour se déplacer à Bamako, à Ségou, un peu partout. Généralement, on emprunte soit la voiture, la moto et l'élevage. Le Mali est un pays d'élevage par excellence et l'élevage également y contribue, alors que nous sommes un pays d'élevage extensif. Le même éleveur, on peut le rencontrer avec un millier de têtes. Et voilà. Mais également, il faut quand même remercier la Mali Météo pour nous avoir informés à temps, nous dire de prendre les dispositions pour les vieilles personnes ainsi que les enfants.
D'accord. Alors, selon vous, ce froid a-t-il un lien avec le changement climatique ?
Oui, je crois que des recherches approfondies pourront démontrer qu'il y ait un lien entre les changements climatiques et puis ce phénomène. Parce que déjà, quand on parle de cyclone et de l'anticyclone, ce sont des phénomènes qui ne sont pas liés avec les changements climatiques. Mais le fait que la perturbation puisse se passer de cette manière et que le froid atteint ce niveau, cela peut nous amener à nous poser des questions. OK ? À savoir, quels sont les liens avec les changements climatiques ? C'est vrai, scientifiquement, il faut observer les phénomènes, les facteurs climatiques pendant une trentaine d'années pour qu'on puisse dire aussi, voilà, voyez un peu, s'il y a eu changement climatique ou il n'y en a pas eu. Et quels sont ces impacts. Mais quand même, parmi les manifestations du changement climatique, il y a de tels phénomènes. Le froid peut être intense, la chaleur peut être intense, ainsi de suite.
D'accord. Mali Météo, peut-on dissocier ce froid avec le changement climatique?
Oui, bien sûr. Je crois que M. Sissoko a bien parlé quand il parle de... En fait, qu'est-ce que c'est le changement climatique? C'est quand quelque chose qui change. En fait, il a parlé sur 30 ans. On parle de changement climatique lorsqu'on a des données jusqu'à 30 ans. Et on peut dire maintenant les choses ont changé. Donc, pour répondre un peu à ça, et le changement climatique, ça joue sur les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Il a parlé de la vague de chaleur, donc les inondations, la sécheresse et le froid. Donc c'est l'impact du changement climatique qui fait que souvent on observe des phénomènes extrêmes. Ce qu'on est en train d'observer actuellement. Et vous savez très bien, pendant surtout cette année, ça a été une année un peu difficile en termes de la pluviométrie, parce que la répartition n'était pas bonne. Mais on a eu des jours des quelques heures où le 25 mai 2023, on a eu 140 mm à Bamako. Donc, on a une bonne quantité, mais la répartition est mauvaise. Donc, tout ça, c'est l'impact du changement climatique qui est là. En fait, surtout chez nous, au Mali, en termes, quand on fait des projections, les scénarios, jusqu'à 50 ans, 100 ans à venir, la plupart des modèles parlent que les températures vont augmenter. C'est dû à quoi? C'est le changement climatique. C'est l'effet de serre de gaz. En fait, sans l'effet de serre de gaz, la température moyenne globale, ça allait être 15 degrés. Sans l'effet de serre. Mais avec l'effet de serre, on a pu avoir... Ça allait être moins, disons, mais avec moins 18 degrés, disons, moins 18 degrés, avec l'effet de serre, qui est là, on est à 15 degrés Celsius. Ça, c'est la moyenne. Mais vu qu'il a parlé de les COD, il a parlé d'autres gaz qu'on est en train de contribuer pour augmenter l'effet de serre là, ce qui fait qu'actuellement, ça fait quelques années, on n'observe pas pendant cette période de décembre jusqu'en février, c'est la période de froid au Mali. Et ça fait longtemps, à peu près 5 ans, on n'observe pas vraiment une telle froid. Mais je tiens à vous dire qu'en réalité, effectivement, maintenant, on est en train d'observer une baisse progressive de températures, mais qui est loin de la record au Mali, à Bamako, en mois de décembre. En mois de décembre, quand on compare les données jusqu'en 1950 jusqu'à nos jours, de 1950 à nos jours, les records des températures minimales à Bamako, c'est 8 degrés qui a été observé le 28 décembre 2006. Si on compare à celle de l'année dernière, ça c'était le 10 degrés le 13 décembre 2022. Donc actuellement, nous sommes ce matin, Au réveil, la température minimale était à 15 degrés à Bamako.
D'accord. Alors, ce froid a-t-il des conséquences sur la santé humaine?
Oui, bien sûr. C'est pour ça que quand on a fait à chaque fois, que c'est vrai, nous ne sommes pas spécialistes, on travaille toujours avec les médecins. Mais vous savez très bien, quand il fait froid, les symptômes, les virus persistent quand il fait froid. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, partout, il y a le rhume, la toux, et grippe et angine même qui est là actuellement. Donc, partout, donc ça a des impacts sur la santé humaine, forcément.
D'accord. Togola, les actions néfastes de l'homme sur l'environnement ont-elles un rapport avec ce changement climatique?
Oui, bon, tout à fait. C'est-à-dire, moi, je pense que M. Sissoko et M. Koumari ont donné des explications vraiment pertinentes. Et vous savez, aujourd'hui, ce que les environnementalistes essaient d'alerter, c'est-à-dire les décideurs politiques du monde entier, en disant qu'aujourd'hui, le climat, la vie sur Terre, surtout l'existence de l'homme, en fait, on oublie souvent, mais l'homme est l'être le plus vulnérable dans l'écosystème de notre planète. Nous sommes les plus vulnérables. Bien sûr, Dieu nous a donné d'intelligence, des capacités d'imagination qui nous permet de nous habiller, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres êtres vivants sur cette terre qui sont beaucoup, beaucoup plus résilients, c'est-à-dire que l'être humain. Mais par notre mode de vie, nous créons énormément de dégâts et donc nous serons les premiers, c'est-à-dire à être vraiment affectés. Souvent, il faudra juste voir. En été, on dit que cette année, 2023, a été l'année la plus chaude jamais recordée dans l'histoire depuis que l'homme a commencé à relever, à mesurer la température. Il y a eu des températures de 45-47 degrés en Europe, hein, Italie, donc Espagne, etc. C'était vraiment une année record, inimaginable. Il faisait plus chaud dans ces pays qu'il ne faisait chez nous ici. Donc inversement, il est très fort probable que chez nous, on doit s'attendre aussi, c'est-à-dire à des températures records, aussi bien de froid et que de chaud. Et c'est ce que vraiment M. Koumari vient de vous dire, c'est-à-dire il se peut que dans des fractions de temps limitées, il peut y avoir des pics énormes, inhabituels. Et c'est ça les changements climatiques. On est habitué à des vagues de froid depuis des années, il y a des vagues de chaleur, mais il peut y avoir des pics qui peuvent vraiment étonner plus d'un, comme il y en a eu cette année dans des pays qui sont considérés des pays froids ou des pays tempérés. C'est ça les changements climatiques. C'est des situations qui sont assez inhabituelles. Normalement, dans des conditions normales, ça ne se passait pas comme ça. Peut-être il faisait froid, mais on voit le froid venir au fur et à mesure. Mais du coup, paf, on quitte une situation, on rentre dans une situation, et après, vous allez voir un pic de chaleur, et après encore, ça descend à un niveau record, etc. Donc ça nous permet d'alerter, d'être alerté, mais l'homme, nous sommes ce que nous sommes en tant qu'humains. Vous savez, on vient de clôturer la COP, la 28e session, mais quand vous voyez ce qui se passe sur la Terre et les décisions qui sont très difficiles, très très difficiles, à arriver à des consensus, malgré les alertes des experts, malgré que tout le monde est conscient, les pays dits industrialisés voient vraiment qu'il fait très très chaud de façon inhabituelle ce jeu, mais quand il s'agit de faire des efforts, on voit tout de suite l'économie. Les finances. Et en ce moment, on n'accepte pas des compromis parce qu'on s'est dit que non, on est dans compétition sur la consommation. Et c'est ce qui est vraiment épatant. Sinon, le problème est réel. Le climat est en train de changer. Des pluies torrentielles, les éboulements et maintenant des vagues de froid chez nous. La météo peut prédire que c'est jusqu'au 24, mais il se peut que le 24 va monter un peu, peut-être, mais les 27-28 encore pas, vous êtes dans les pics. Si le climat change très très rapidement, et donc, parce que c'est ça les perturbations, et ça c'est réel.
Concernant ce changement de température auquel nous assistons, quelles sont les couches les plus vulnérables à cette situation?
Vous savez, moi je vais vous surprendre hein, avec ce volet, c'est-à-dire si vous voyez les couches les plus vulnérables, c'est les gens qui vivent dans les maisons en béton, hein. Plus que les gens qui vivent dans les maisons en terre. Moi, je pense que les zones...
Pourquoi ?
Oui, parce que nous avons quand même des constructions. Nos ancêtres sont des gens qui vivaient en harmonie avec la nature. Vous savez, quand vous avez quelqu'un dans une maison à Tombouctou, en Banco, bien à Mopti, bien à Djéné, et les Banco est un isolant naturel. Hein? Donc, c'est un isolant thermique. Quand il fait chaud, il fait frais à l'intérieur, et quand il fait froid, il fait une température confortable à l'intérieur. Donc celui qui est dans sa maison des pailles, et les pailles aussi, les matériaux locaux ont cette force-là. Hein, mais celui qui vit aujourd'hui, quand il fait chaud, tu es dans ta maison en dur, tu peux mettre la climatisation, mais quand il fait froid, qu'est-ce que tu fais? Hein, donc, et là, c'est là, il y a les risques, parce que certains, c'est le moment de dire, certains ils amènent des fourneaux à charbon à l'intérieur. Donc, il a des risques de se faire asphyxier. Hein, il a ses dégâts. Hein, parce que tu dors, tu as les charbons dans ta maison. Et bon, voilà. Et si jamais tu tombes, il y a ces accidents souvent hein, qui arrivent. Ou les maisons qui prennent feu quand tu mets le feu là-dedans. Donc, je pense qu'il y a. C'est un ensemble de se dire aujourd'hui que la lutte contre les changements climatiques va aussi avec la valorisation du savoir local. Hein. Donc nous devons vraiment se dire que nos ancêtres qui ont opté pour des constructions en banco, etc., il y avait une raison, c'était adapté à notre climat, et qui est un climat sec et chaud, mais qui peut faire froid, et le banco est un très bon isolant. Donc il y a des solutions adaptées et aujourd'hui que nous pouvons bien maîtriser et développer à travers la formation et l'éducation, c'est-à-dire si ces techniques et ces architectures hein, dont nos ancêtres ont bien développé et qui sont adaptées à nos réalités.
D'accord. Adama Sambou Sissoko, quel impact du changement climatique sur la vie des populations?
L'un des impacts, c'est tout d'abord, il y a Koumaré qui l'a dit, la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. On est au mois de décembre, s'il devrait pleuvoir 40 mm à Bamako, on n'en a pas besoin en cette période, ou dans un quelconque village du Mali. Ou qu'est-ce qui peut se passer? Pendant que les paysans ils sont en train de récolter, c'est le moment où la pluie va tomber. Ou à Bamako, au moment où on n'en a pas besoin de la pluie, je vais dire, il va tomber une grosse quantité de pluie, pendant que tout autour de Bamako, où il y a les paysans, leurs champs sont vraiment confrontés à ce qu'on appelle la pause pluviométrique. Et quand il y a ces manifestations ou bien ces phénomènes, cela joue sur la production. Quand il n'y a pas assez à manger, je crois que beaucoup d'autres questions seront reliées au second plan. La scolarisation des enfants, la santé et beaucoup d'autres. Mais de l'autre côté, on est dans un pays agro-silvopastoral. Les changements climatiques jouent également sur la végétation. Qui dit végétation, il faut penser à l'élevage. S'il n'y a pas de pâturage, mais les éleveurs ils vont où? Il faut qu'ils se déplacent d'un point A en un point B, soit à la recherche de l'eau, soit à la recherche du pâturage. Et le phénomène de transhumance va prendre de l'ampleur. On a l'habitude de dire que le champ n'a pas de pied pour se déplacer, mais on ne peut pas non plus mettre le bétail dans la poche. Cela donne lieu généralement à des tensions entre éleveurs et agriculteurs, et ça peut aller à une dimension dont on ne souhaite vraiment pas du tout avoir. Mais également, il y a la santé. Imaginez un peu, on est en période de froid. Koumaré l'a dit, il faisait ce matin 15 degrés. Moi, je n'avais pas observé, mais sur les réseaux sociaux, je vois l'application de notre organisme. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à ces changements brusques de température, le chaud et le froid? Est-ce que ça va se passer de la même façon chez tout le monde ce n'est pas évident, surtout les enfants et les vieilles personnes. Donc il y a la question de santé. De l'autre côté, le paludisme. On connaissait le paludisme au Mali à partir du mois de juillet, août, septembre. Mais maintenant, c'est durant toute l'année. Et il y a eu des recherches au Mali qui ont vraiment établi le lien entre les changements climatiques et la propension du paludisme. Voilà. Et de l'autre côté, Dr Togola l'a dit, quand on est en milieu paysan, parce que les changements climatiques également, des fois, c'est la vitesse du vent dont il faut voir. Quand le vent est fort, il arrive que la toiture des maisons soit emportée et les occupants se trouvent, voyez un peu. De l'autre côté, au moment où on s'attend à la récolte, ben, quand le vent vient, ça peut vraiment faire des dégâts dans les champs. Et cela joue sur la production. S'il n'y a pas assez de production, c'est que la malnutrition va prendre de l'ampleur. Ça, c'est clair. Donc, là, c'est un certain nombre d'impacts, mais surtout la dimension genre, dont il ne faut pas oublier. Parce qu'en milieu paysan au Mali, on est un pays fort potentialité patriarcat. Ça veut dire quoi? Généralement au Mali, c'est le papa qui va léguer à son fils et non à la fille. Vous comprenez? Donc la femme n'a pas de terre. Si elle n'a pas de terre, quand il pleut et qu'il y a inondation, là où le chef de famille a cultivé cette année, là où la dame est, et qu'il n'a pas eu d'inondation, on peut lui dire, bon, l'année prochaine, on va y récupérer cette partie qu'on va cultiver pour nourrir la famille. Vous voyez un peu? Ou que la sécheresse peut même en être une explication. Parce que quand la pose pluviométrique devient assez étendue, on va essayer de lorgner le champ que la femme a. Et si elle n'a pas ce champ, qu'est-ce qu'elle deviendra? Parce que ce qu'elle produit, ça va non seulement dans le repas du ménage, mais c'est très bientôt la fête de fin d'année. Les petits-enfants, ils ne pourront pas aller tout le temps réclamer quelque chose à papa au village. Des fois, c'est la maman qui est contactée en premier, mais si elle n'a pas les moyens, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un peu, là, ce sont là un certain nombre d'impacts des changements climatiques aujourd'hui. Et ce qui nous fait dire qu'au Mali, c'est tous les secteurs, même les transports. Imaginez un peu la température à Bamako qui fait au mois de mars à avril. Et si vous avez peut-être été sur le terrain pour la collecte des données, des choses comme ça, généralement, on voyage la nuit, si c'est possible. Vers 14 heures, quand vous le faites, c'est que votre moteur est exposé à des situations qui ne sont vraiment pas souhaitables. Et je parlais tantôt d'éleveurs, agriculteurs, et la pêche alors. Imaginez un peu, à un moment donné à Bamako, le kilo du poisson, ça coûtait combien? Aujourd'hui, on est à combien le kilo? Parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans nos eaux. Parce que tout ça là, c'est dû au phénomène de changement climatique. Donc, c'est pour dire que c'est tous les secteurs qui sont touchés par ces phénomènes de changement climatique. Même l'énergie, c'est vrai, c'est la période de délestage, mais durant la saison sèche, le besoin va augmenter.
Alors, dans ces conditions, jusqu'à où ce changement climatique va nous conduire?
C'est à nous, les humains, de changer de comportement. Sinon, je crois que les prévisions disent qu'il va y avoir une augmentation de 1, quelque chose degré. C'est comme quand il fait aujourd'hui 6 degrés à Bamako, c'est que dans 30 ans, à l'horizon 2050, il faut ajouter 1,5 à ça, ce qui va faire 7,5. S'il fait 36 degrés, plus 1,5, ça fait combien? Ça fait 37,5. Donc, le changement climatique est en train de pousser nous, les humains, à se remettre en question. Bon, on a commis, je ne sais pas, une appréciation, une erreur d'appréciation, je vais dire. On a dit que l'homme est au-dessus de la chaîne alimentaire, ce qui nous donne l'opportunité de tout faire, alors qu'on ne doit pas tout faire. D'accord? Au Mali, par an, selon les eaux et forêts, c'est 5 millions d'hectares de forêts qui sont brûlées chaque année par le feu de brousse. Imaginez la quantité de COD qui sont vraiment émises et la quantité de CO2 qui est émise à partir de là. De l'autre côté, il y a les défrichements. Donc, ces changements climatiques nous poussent à un niveau où on doit dire, bon, écoutez, on se développe, d'accord, mais il faut qu'on essaie de revoir. Au lieu d'aujourd'hui, nos moyens de déplacement sont les véhicules et autres, au lieu de cela, il faut aller vers les véhicules électriques. Tant que le moins peut, consommons moins les énergies fossiles et mettons l'accent sur les énergies renouvelables. Docteur Togola a mis un accent sur un fait qui est très important, qui est nos savoirs locaux. Dans le temps, au Mali, on s'éclairait à base de quoi ? C'était le beurre de karité. Dans pratiquement sur tout le territoire malien, partout où vous partiez, si vous menez des études, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, on s'éclairait avec ce beurre de karité. Mais ce karité même est en voie de disparition dans des localités où il était abondant. Okay? Si on avait développé ce beurre de karité aujourd'hui jusqu'à un certain niveau, même les impacts des changements climatiques n'allaient pas nous frapper autant. Parce qu'on allait reboiser, non pas parce qu'il est, vous comprenez un peu, parce qu'il y a un intérêt qui se cache derrière, qui est l'intérêt d'avoir des hydrocarbures. On a l'exemple du Pourguer. Donc, le changement climatique nous pousse à l'extrême pour que l'on puisse revoir nos modes de consommation. Si on ne le fait pas, ben, on va récolter les pots cassés, comme on le dit.
D'accord. Koumaré, vous avez parlé tout à l'heure de température de record, notamment en 2016. Vous avez parlé de 8 degrés.
2006,
8 degrés. Mm-hmm. 2022, 10 degrés. Mm-hmm. Et cette année, ce matin, on est à 15 degrés Celsius. Mm-hmm. Est-ce que dans les jours à venir, cette température va diminuer ou elle va augmenter? Déjà avec 15 degrés, c'est insupportable pour certains. Est-ce qu'on va assister à une augmentation ou une diminution de cette température?
Ok. Donc, en fait, le cas de Bamako, parce qu'on a fait une prévision sur l'ensemble du pays avec les températures minimales qui va varier entre 7 à 16 degrés. Donc, 7 degrés, ça, c'est au nord. Vous savez, actuellement, au nord, surtout notamment les régions comme Taoudéni, Kidal, il fait très très froid maintenant parce qu'ils sont des températures qui varient entre 7 à 10 degrés. Contrairement au sud. Au sud, quand même, c'est un peu, ça va un peu parce qu'actuellement, depuis lundi à Bamako, lundi on était à 22 degrés au réveil à 6 heures. Et mardi, c'était à 18. Mercredi, c'était 15 et ce matin encore, c'était 15. Donc, le cas de Bamako, les températures vont varier entre 10 à 15 degrés. OK? Voilà. Mais à partir du 24, comme il a dit, à partir du 24 décembre, la situation va commencer à être revenir à la normale. Donc, les températures vont commencer à augmenter un peu. Donc, on ne va pas sentir trop de froid comme on est en train d'observer actuellement. Ça, c'est le cas de façon générale au sud du pays, mais au nord, quand même, ça va varier entre moins de 10 degrés par endroit. Ouais.
Alors, existe-t-il des gestes simples qui sauvent?
Oui, bien sûr, en portant des habits lourds, c'est ce qu'on recommande surtout à cette période-là. On dit les parents de veiller surtout aux enfants, aux personnes âgées et surtout les personnes souffrant des maladies respiratoires. Parce que actuellement, il y a trois choses qui sont là. Non seulement il fait froid, il y a le vent aussi un peu fort et modéré, un peu fort par moment, surtout pendant la nuit et au cours de la journée. Il y a aussi la poussière en suspension qui est là. Ça aussi a des impacts sur la santé humaine. Donc c'est pour ça qu'on dit les personnes aussi qui souffrent des maladies respiratoires de porter des masques.
D'accord. Togola a parlé tout à l'heure des personnes les plus vulnérables qui, selon lui, qu'il va nous surprendre avec les gens qui sont dans des constructions, dans les maisons en béton, oui, vont plus sentir ce froid que ceux qui sont dans les maisons de banco. Est-ce que vous partagez son expérience?
Bien sûr, ce qu'il a dit, effectivement, c'est vrai, actuellement, on est en tendance maintenant d'aller vers de construction en ciment, mais en banco quand même à l'intérieur, comme il a si bien dit, effectivement c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Et aussi en ciment, aussi construction en ciment, vous savez très bien, pendant la période de chaleur, même pour rentrer à l'intérieur de ta chambre là, c'est très difficile, c'est chaud, c'est très très chaud. Surtout je profite de votre studio de cette année, on risque d'observer les records encore en température, en termes de température maximale. Oui, parce que cette année, ce qui a fait que la saison n'était pas vraiment, la saison pluviométrique n'était pas bonne, parce que cette année, il y avait la présence d'un phénomène sur l'océan Pacifique qui est appelé El Niño. Donc, c'est le réchauffement des eaux au niveau de l'océan Pacifique. Donc, ce phénomène-là, El Niño, apparaît chaque 10 à 15 ans. Ça, c'est de façon normale. Mais avec le changement climatique, ça va descendre au-dessous de 10 à 15 ans. Par exemple, sa dernière apparition, c'était en 2015. Et en 2016, on a eu des records de température dans le monde entier. Il a parlé, cette année, il y a une partie de la Chine où il y a eu 50 degrés. En 2000, je crois, si je ne me trompe pas, en 2021-2022, au Canada, ils ont eu des températures 50 degrés aussi, alors que c'est des zones où vraiment ils ne connaissent pas la chaleur. Donc ça a causé vraiment beaucoup de dégâts. Donc ce phénomène-là, cette année, ça a apparu. C'est ce qui a fait que la pluviométrie n'était pas vraiment bonne pour beaucoup de localités. Mais avec l'appui du programme Plus Provoqué, on remercie nos autorités qui nous ont vraiment aidés cette année de faire tout pour qu'on puisse faire ce programme-là, parce que la saison était vraiment catastrophe au début. Donc avec l'appui du programme Plus Provoqué, à partir du 22 juillet, la situation a commencé à être améliorée. C'est ce qui a fait que même, c'est vrai, actuellement, les records qu'on a, on remercie le bon Dieu aussi, et avec l'appui du programme Plus Provoqué, qui a fait que vraiment la saison a vraiment un peu sauvé. Donc, ce phénomène, à chaque fois que ça apparaît, ça bouleverse tout. Et c'est le changement climatique qui fait que, au lieu que ça vient de 10 à 15 ans, ça diminue. Donc, dernière apparition 2015 à 2023, c'est à peu près 8 ans. Donc ça n'a pas atteint sa date de, comment dirais-je, année d'apparition de 10 à 15 ans. Donc à 8 ans déjà ça apparaît. Donc il faut s'attendre encore peut-être 6 ans après, 7 ans après, ça va apparaître. Donc à chaque fois que ça apparaît, ça influence tout. En termes de la pluviométrie, c'est des extrêmes. La sécheresse aussi, c'est des extrêmes. Donc, et en termes de température...
Donc, quand vous dites qu'il y aura une augmentation de température maximum, s'agira-t-il qu'il va avoir plus chaud?
Oui, ça veut dire qu'il y aura des jours où il fera très, très chaud. Et on risque d'avoir observé des records de température. Par exemple, au Mali, le record de température a été observé à Kaï, 50 degrés. C'était 49,7 degrés. Donc, si on arrondit, c'est 50 degrés. Ça a été observé déjà au Mali, à Kaï. Donc, si on continue avec, Sissoko a dit, Togola a dit, si on continue avec comme ça, là, sans diminuer l'effet de serre, les gaz qui contribuent à augmenter l'effet de serre, donc on risque de subir des conséquences.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que les pays, à chaque fois, à la COP, on demande aux pays développés qui contribuent beaucoup. Ils voient toujours l'aspect l'économie, parce que s'ils arrêtent, leur économie va baisser.
D'accord.
Donc, c'est un problème.
Togola, des engagements ont été pris pour lutter contre le changement climatique. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la réalisation de ces engagements?
beaucoup d'engagement, beaucoup, beaucoup d'engagement. Il ne faut pas oublier que c'est la 28e COP. Mais vous savez, il y a deux aspects qui sont contradictoires. Il y a ma survie économique, donc l'apesanteur économique, et ma vie sur Terre et donc l'avenir de mes enfants ou de ma progéniture. Donc aujourd'hui, nous sommes à une course effrénée de compétition entre les grandes puissances. Et chacun se regarde en disant que bon, voilà, et vous avez pollué pendant presque cinq siècles pour arriver là où vous êtes. Donc nous, on a, c'est là la discussion entre les pays émergents et les pays déindustrialisés. Vous avez utilisé les charbons, vous avez utilisé le pétrole, vous avez utilisé tout. Vous avez utilisé abondamment les ressources pour être là où vous êtes aujourd'hui, devenir des pays riches. Donc vous avez causé, c'est-à-dire du tort à notre écosystème. Donc on vous demande de payer ça. Si vous nous payez ça, c'est dommage que vous avez fait. En ce moment, nous, on peut réduire, mais aujourd'hui, nous aussi, on est dans une tendance à s'industrialiser, qu'on a des pays émergents. Donc, nous ne sommes pas à l'origine des problèmes. Donc, on a trouvé le problème ici. Bon, les pays encore qui sont au départ, qui sont vraiment les pays avec des économies très faibles, comme la plupart des pays africains, dans la plupart des pays latino-américains et certains pays asiatiques, disent, bon, écoute, nous, on n'est ni industrialisés, nous ne sommes ni pays émergents pour le moment, mais on ambitionne aussi d'être voilà, un pays émergent. Donc, il faut que nous, on n'est pas concernés. Voilà. Bon, alors que notre terre, c'est comme une maison. Et les frontières ont été tracées par les humains. Mais la planète Terre, c'est une maison pour l'humanité. Nous sommes tous là-dedans. Ce que tu fais au coin nord va affecter le coin sud. Ce que tu fais au coin est va affecter le coin ouest, et vice-versa. Donc ça fait que les décisions sont très difficiles. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, dont les contributions nationales désignées, ce qu'on appelle les CDN, où on demande aux pays de dire l'effort qu'ils vont faire pour la réduction des effets des changements climatiques. Bon. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une course infernale de création des richesses. Et cette course de création des richesses va sur la surconsommation. N'est-ce pas? Je pense que c'est ce que vous avez parlé. Et donc, on veut consommer plus. Il faut, pour consommer plus, il faut manufacturer, il faut faire la production. Pour produire, on a besoin des ressources. Et donc, le monde est devenu une économie de superconsommation. Et ça dégage, ça a ses effets collatéraux. Vous savez, aujourd'hui, l'écosystème que le bon Dieu nous a donné est une harmonie. C'est une harmonie qui est là. Les températures sont réglées par les océans. Les océans, il y a des parties, les points chauds, qui est l'océan Indien. Il y a des océans qui sont chauds et il y a des océans qui sont froids, comme le pôle Nord. Donc, vous savez, et l'océan est salé. Le sel, il a une densité. Donc, quand c'est du lié, c'est léger. Quand c'est froid, c'est lourd. Donc, ces points lourds, points froids, fait qu'il y a une circulation naturelle de l'océan. Et avec les glaciers qui sont là pour pouvoir maintenir cet équilibre. Donc, quand il y a la température, les glaciers, c'est l'eau douce. Quand il met l'eau douce dans la mer, ça se dilue. Donc, la densité baisse. Donc, la circulation est affectée. Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont le mouvement des océans, le mouvement des glaciers, et qui, même maintenant qu'on a une température qui est perturbée à la surface, parce que c'est le mouvement des océans. Quand on dit que les moussons arrivent, les météos, ça, donc quand les moussons arrivent, donc cela veut dire qu'il y a les pluies, donc ce mouvement fait que tantôt à ses côtés la fin des saisons pluvieuses, par exemple l'Afrique de l'Est, et à un moment donné ça arrive, les moussons arrivent chez nous, donc nous on a les pluies, et après ça quitte chez nous, ça va aller ailleurs. Donc et ça c'est dû au mouvement c'est-à-dire, des océans et tout ça. Donc, tout ça s'est perturbé aujourd'hui. Et donc, le truc, il faut se dire comme ça que les meilleurs scientifiques disent, même si on arrête la consommation aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits. Et beaucoup de dégâts ont été faits. Donc, cela veut dire qu'on ne va pas. Et comment on va arrêter? Je pense que c'est ce qu'on a dit aussi, Koumaré l'a mentionné. C'est nous, les pays émergents, parce que les pays en voie de développement, nous sommes les plus nombreux. D'accord. Étant les plus nombreux, on ne dit pas, je termine par là, on ne dit pas que nous devons arrêter notre développement, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous développer autrement, faire notre croissance autrement. Avec quoi? Avec les énergies renouvelables. Avec quoi? Avec vraiment, c'est-à-dire de l'agroécologie, avec des meilleures pratiques. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous les téléphones, mais on n'a pas des lignes de téléphone. On peut vraiment prendre un développement qui est beaucoup plus harmonieux et qui va nous permettre de créer plus d'emplois verts, etc., etc., et plus de développement.
D'accord. Les partenaires se sont engagés à financer les pays en voie de développement, les pays moyens avancés, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le Mali a-t-il eu de financement, selon vous?
Bon, je ne peux pas dire, parce que comme il y avait une délégation officielle malienne, je pense qu'il y avait une grande délégation officielle, et cette délégation a eu à faire beaucoup de démarches. Je pense que je ne sais pas exactement ce qu'ils ont pu obtenir, mais il y avait une forte présence malienne, avec une bonne organisation, avec un bon stand. Ça faisait plaisir de voir ce que le Mali faisait. Mais aujourd'hui, vous savez, le monde traverse un moment aujourd'hui où même les partenaires ont des problèmes. C'est-à-dire que le monde est dans une phase assez particulière cette année. Et donc, ça fait que les financements, je ne dis pas que ça se fait rare, mais ce n'est pas évident. Donc, ce qu'il faut pour nous, les pays africains, c'est de se dire que nous avons énormément de richesses chez nous. Nous avons énormément de potentialités chez nous. Comment nous voulons créer la richesse locale et comment on peut avoir des partenariats gagnants-gagnants, c'est-à-dire des partenaires gagnants-gagnants avec des partenaires, des investisseurs étrangers pour pouvoir valoriser, surtout avoir un savoir-faire. Parce que les pays comme la Chine, l'Inde et autres, qui sont aujourd'hui émergents, ont été des pays qui ont attiré, c'est-à-dire la connaissance et les savoir-faire d'autres pays pour pouvoir aller de l'avant. Donc, les savoir-faire est la plus grande richesse aujourd'hui dont les pays africains doivent aller à la richesse, plus que l'argent.
D'accord. Il nous reste 2 minutes. Nous allons essayer de faire un tour de table. Il a parlé tout à l'heure, disait que les partenaires ont demandé aux pays moins avancés de fournir, de présenter des efforts qui permettent de réduire les effets climatiques. Quels sont les efforts que les États moins avancés doivent fournir pour réduire les effets climatiques?
Je crois que le Dr Touala m'a un peu dévancé sur ce point. Nous, en tant que société civile, on a tout le temps dit. Prenons le budget de l'environnement, du ministère de l'Environnement au Mali. C'est 1,7%. D'accord. En dehors de ça, qu'est-ce que l'État malien fait? Par exemple, quand on prend sur le plan de renforcement de la couverture forestière. Il ne faut pas qu'on soit là tout le temps à monter des projets, aller voir les partenaires. On peut faire développer des activités au pays pour que nous puissions financer des activités propres avec quand même des retombées. Et on a le Conseil national du patronat du Mali qui peut également faire quelque chose dans la mesure où ce sont des opérateurs, soit aller démarcher des partenaires au-delà, mais pourquoi ne même pas mobiliser les finances au niveau national.
D'accord. Voilà. En 30 secondes, dites-nous quel rôle les populations et le gouvernement doivent jouer pour réduire les effets climatiques.
Oui, je crois qu'on a parlé de ça. On doit vraiment faire tout d'aller vers... par exemple, le cas de l'énergie renouvelable. Vous voyez, actuellement, c'est vrai, il y a coupure, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de faire des panneaux solaires. Et les enfants prennent leurs leçons à travers ça. Et on doit aller dans ce sens-là pour au moins quand même développer un peu et d'éviter des énergies fossiles qui augmentent toujours, qui va toujours continuer à augmenter.
D'accord. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne à nos radios partenaires. On me fait signe que nous n'avons plus de temps. Merci en tout cas à nos invités. Nous parlions de la vague de froid qui s'abat actuellement au Mali. Et nous étions avec Ismaïl Koumaré de Mali Météo, Dr Ibrahim Togola, président du conseil d'administration de Mali Folk Center, et Adama Sambou Sissoko, président de l'association des apprenants et diplômés en environnement au Mali. À la présentation, c'était Imran Akilo Maïga. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.